Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, pour ce podcast, j'ai envie de revenir un petit peu sur la pédagogie Montessori, qui est une pédagogie que j'ai découverte il y a 25 ans à peu près. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi elle est chère à mon cœur, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre, notamment dans le réseau des écoles démocratiques. Et le premier à avoir émis des critiques assez acerbes sur cette pédagogie, ça a sans doute été Alexander Neil, le fondateur de l'école de Summerhill, qui argumentait que cette pédagogie est en fait une fine manipulation des enfants. Et c'est pas faux non plus. On va prendre le temps de décortiquer cette question pour voir en quoi Montessori répond vraiment aux besoins des enfants et en quoi il s'agit éventuellement d'une pédagogie qui, comme les autres, est au service des intentions des adultes. Alors, premièrement, moi, ce qui m'a attirée dans cette pédagogie, c'est le caractère, on pourrait dire presque désintéressé, même si le mot n'est pas complètement adapté, du docteur Montessori. C'est-à-dire qu'elle a une démarche, il me semble, bien sûr, à chaque fois on regarde les situations depuis un autre siècle, donc les choses sont faussées, par définition. Mais à travers ce que j'en ai lu et connu, il me semble que c'est une personne qui a très sincèrement regardé l'enfant comme une scientifique regarde, par exemple, une nouvelle espèce à l'œuvre dans la nature pour en comprendre les fonctionnements, les besoins, les ressources, les ressorts, avec l'intention de les servir. Donc, dans cette définition, je retrouve quelque chose qui m'est cher, qui est le regard permaculteur, le regard de la permaculture sur l'enfant. C'est-à-dire, plutôt que de croire en l'intelligence supérieure de l'adulte pour adapter la réalité et la nature à des performances qu'il définit lui-même, il s'agit d'observer la nature en fonctionnement, c'est-à-dire avoir un regard éthologique sur l'enfant, pour comprendre comment il se développe, quelles sont ses périodes de développement, quelles sont les mécanismes de ce développement, quelles sont ses compétences intrinsèques et comment il va s'y prendre pour accéder à la compétence et à la connaissance par lui-même. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit pour sa vie affective et sociale, sa vie intellectuelle, son mental ou même sa vie spirituelle, puisque chez Maria Montessori, il y a toute une dimension aussi spirituelle. Alors bien sûr, Maria Montessori avait sans doute des biais cognitifs très importants. On imagine ce que c'est que vivre à cette époque. On parle du tout début du XXe siècle. Elle est née en 1870 et elle est la première femme médecin d'Italie. Et donc, c'est contre vents et marées qu'elle développe sa vocation. Et elle va se retrouver observatrice donc des enfants dans un contexte qui lui est confié, une maison des enfants qu'elle va appeler la Casa dei Bambini, donc la maison des enfants, dans un quartier pauvre de Rome. C'est par l'enfance dite inadaptée qu'elle fait ses premières découvertes pédagogiques. Mais là encore, Maria Montessori a une approche assez révolutionnaire parce qu'on lui confie donc des enfants dits déviés, inadaptés, etc. Mais elle va tout de même, et malgré ses étiquettes, y voir un potentiel représentatif de ce que c'est qu'un enfant, sans s'arrêter au fait que peut-être ces enfants-là ont des difficultés particulières qui pourraient être des névroses, des psychoses, des retards de développement en raison de la pauvreté de leur condition. Donc elle va au-delà de cette catégorisation sociale pour s'intéresser simplement aux forces qui sont à l'œuvre chez l'enfant, pour retrouver son homéostasie de développement et pouvoir apprendre par lui-même. Et donc en observant, eh bien, petit à petit, elle crée du matériel. Une des anecdotes les plus connues, c'est qu'elle observe des enfants enfoncer des boulettes de mie de pain entre les lames d'un plancher, dans cette maison où il n'y a pas grand-chose pour s'occuper. Et quand elle observe les enfants dans cette activité qui semble anodine, voire ridicule peut-être pour certains, eh bien, elle n'y voit pas de ridicule, elle voit juste l'intelligence de la nature à l'œuvre. Et elle fait faire un matériel adapté qui correspond à ce type d'activité, c'est-à-dire enfoncer des formes dans d'autres formes qui s'y prêtent. Donc ce seront les emboîtements cylindriques qui sont ou blocs de cylindres qui existent toujours dans la pédagogie Montessori et qui sont toujours utilisés dans les maternelles. C'est ainsi qu'elle va développer sa pédagogie en observant les enfants, en observant ce qu'ils font spontanément, vers quoi ils sont attirés, ce qui fonctionne avec eux. Il n'y a aucune injonction, aucune obligation de faire. C'est-à-dire qu'elle, elle crée du matériel, elle le met à disposition des enfants. Et s'ils l'utilisent, ben c'est tant mieux. Ça veut dire que ça valide son intuition. S'ils ne l'utilisent pas, eh bien, à ce moment-là, le matériel est mis de côté et puis on passe à autre chose. C'est vraiment l'enfant qui guide et qui décide, qui a l'élan de l'activité ou non. Donc moi, cette démarche très respectueuse du vivant m'a passionnée. Bien sûr, c'est ce qu'on en raconte encore une fois. Je n'étais pas là, je ne sais pas qui était Maria Montessori en réalité, comment elle se comportait. Est-ce qu'il y avait... On connaît hein, la dialectique entre l'observateur et l'observé. Et bien sûr, quand on est convaincu de vouloir découvrir quelque chose, peut-être que, pas incidemment, on influence la chose observée, en l'occurrence là les enfants peut-être. Bien sûr que j'ai fait l'expérience moi-même d'une différence entre un adulte passionné, convaincu, absolument dédié à la cause de ce qu'il est en train de faire et un adulte qui est juste dans une transmission un peu mécanique ou automatique, qui fait son devoir et qui ne porte pas la chose qu'il enseigne. Et on va voir que dans ce contexte-là, les enfants ne réagissent pas de la même manière. J'ai même vu à la ferme des enfants pendant 21 ans, j'ai eu le temps d'observer et j'ai pu voir que un adulte ou même un adolescent, ou peu importe qui, un autre enfant, qui porte avec passion une discipline, va créer autour de lui une épidémie. Et quelle que soit la discipline, j'ai vu des sujets assez ingrats se répandre comme une traînée de poudre dans l'école parce que simplement, il y a quelqu'un qui est porteur de ça avec peut-être toute sa foi, toute sa joie, tout son enthousiasme. Et puis, les autres autour vont se rallier un peu à la pratique de la discipline pour par contagion, simplement par contagion psycho-émotionnelle, on pourrait dire. Donc peut-être que Maria Montessori, dans son enthousiasme de percer, de mettre à jour les mécanismes de développement de l'enfant, a suscité et induit des choses, c'est bien possible. Mais alors à ce moment-là, on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait-il que plusieurs générations plus tard, ce matériel fonctionne toujours. Et c'est vrai, ça aussi, je l'ai validé et en même temps invalidé. C'est-à-dire qu'il y a du matériel qui me paraît universel et vraiment fonctionner à 100%. Je pense à la vie pratique de Maria Montessori. Donc la vie pratique, ce sont des petits plateaux, des petites activités qui sont préparées par l'adulte et disposées à hauteur des enfants, dans un environnement qu'on appelle toujours la maison des enfants, parce que c'est comme une maison. Dans une maison, on circule librement, on œuvre librement, on peut s'asseoir sur le canapé, sur le fauteuil, à table, on peut par terre, sur le tapis. Dans une maison, on peut choisir ce que l'on fait, et c'est pour ça que ça s'appelle une maison des enfants. C'est plus une maison qu'une salle de classe. La salle de classe, dans sa représentation classique, avec le tableau noir et les pupitres alignés, avec des élèves qui doivent être attentifs, concentrés et ne pas bouger de leur chaise, c'est très très loin d'une ambiance Montessori. L'ambiance Montessori, c'est plus, comme je dis souvent, une ruche bourdonnante où les enfants sont occupés à vaquer à leurs occupations de manière différenciée, individualisée, ce qui fait que ça ressemble davantage à l'ambiance d'une maison, d'une famille nombreuse, on va dire, que d'une salle de classe, évidemment. Et ça aussi, j'ai trouvé ça merveilleux. Alors moi, j'ai vécu la famille nombreuse dans une maison. On était constamment les frères et sœurs, cinq frères et sœurs dans une salle à manger, parce que mes parents, ben, voilà, avaient une ferme assez modeste où il n'y avait pas des espaces indéfinis pour avoir chaud, par exemple, l'hiver, c'était autour de la cheminée ou du poêle. Et bien sûr, il y avait une concentration d'activité dans cette salle à manger, avec une table tout le temps encombrée d'actions, d'activités en cours, tout notre matériel qui était à notre disposition en permanence. Et forcément, j'ai vécu ça en tant qu'enfant, je suis quasiment pas allée à la maternelle, donc j'en ai profité assez longuement. Et quand j'ai retrouvé cet état d'esprit dans la pédagogie Montessori, j'ai trouvé ça familier finalement et merveilleux parce que c'était la continuité de cette ambiance que j'ai connue où on n'arrête pas d'œuvrer, de faire, pas seulement avec du matériel pour enfants, mais aussi avec le vrai matériel que les adultes utilisent toute la journée. Dans une ferme, bien, on peut récolter, cuisiner, éplucher, s'occuper des animaux, bricoler, fabriquer des objets, etc., etc. Donc tout ça, c'était pour moi comme un continuum de vécu, de basculer dans cette pédagogie Montessori assez naturellement. Donc là, cette vie pratique qui correspond chez mon Montessori à la toute petite enfance, hein, mais qui peut s'étendre aussi plus longuement, parce que je pense qu'on a tous besoin de vie pratique au fond, c'est-à-dire d'utiliser son corps et ses mains pour accomplir des gestes du quotidien qui nous sont nécessaires pour notre vie et survie, bien sûr utiliser, manipuler des ustensiles de cuisine, de lessive, de nettoyage, de pouvoir verser par exemple des petites graines qui vont devenir de plus en plus petites au fil des plateaux, un plateau de verser avec de l'eau qui est encore un petit peu plus sensible pour les tout petits, hein, on parle de 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, et les petits vont pouvoir exercer leur motricité et notamment celle de la main et du bras, voilà, à travers ces petits gestes du quotidien où on verse d'un pot à l'autre, où on utilise une pince, une petite louche, une cuillère, etc., etc. Donc, tous ces petits gestes sont décomposés plateau par plateau pour que l'enfant puisse affiner sa compétence. Et il n'y a pas besoin d'un but véritable, comme préparer un vrai repas ou faire un nettoyage qui soit utile pour la communauté. Et c'est là peut-être que les détracteurs et les adeptes de la réalité peuvent trouver que c'est une forme de manipulation, ou en tout cas de simulation, hein, une simulation que moi j'ai bien retrouvée dans la différence entre une ferme pédagogique et une ferme en activité, par exemple. Donc je peux comprendre que l'on puisse avoir ce regard sur la pédagogie Montessori, parce qu'à l'époque de la grande époque des fermes pédagogiques, dans les années 80-90, j'étais assez critique, ayant grandi dans une ferme réelle, de cette exposition d'animaux où on fait une petite traite ou du fromage juste pour les spectateurs et non pas pour nourrir une population, avec les dérives possibles, c'est-à-dire qu'une ferme pédagogique, petit à petit, c'est devenu une ferme zoologique en fait, hein, donc une exposition animale avec un défilé de spectateurs qui a ses inconvénients en termes de dérangement des animaux, de perturbation de leur rythme, de germes et de pathogènes qui circulent aussi autour des animaux, etc. Donc pour moi, on est loin de la permaculture à cet endroit-là, donc je reconnais que c'est pas une situation de la réalité d'une micro-société qui fait sens parce qu'elle est porteuse de ou pourvoyeuse de nourriture, enfin, elle répond à des besoins. Et je préférais à cela la démarche d'accueil paysan qui proposait de faire venir les enfants dans les vraies fermes, à rencontrer les vrais paysans, qui leur racontent leur travail, qui leur fassent participer à des récoltes, pourquoi pas à traire des animaux, etc., pour qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est que cette œuvre au service de l'humanité. Donc voilà, ça c'est peut-être un des reproches que l'on peut faire à Montessori, c'est qu'elle décontextualise tout. Tous les gestes, par exemple, du quotidien sont décontextualisés pour. Alors, pas à 100%, je reprends un petit peu, parce que il y a effectivement des gestes nécessaires dans la classe ou dans la maison des enfants. Il faut bien laver les petits linges dont on se sert pour faire des nettoyages. Ça, c'est une vraie activité au service de la communauté. On peut, au moment du petit encas, quand par exemple, on découpe une banane ou on presse un jus d'orange, c'est pas pour le jeter. On va ensuite le distribuer aux amis autour ou le boire soi-même, le petit jus d'orange qu'on aura pressé. On va avoir des ustensiles de ménage pour réellement nettoyer l'ambiance de la maison des enfants. Donc, il y a une partie de cette vie pratique qui est vraiment au service du quotidien, mais une majorité de petits plateaux de la vie pratique qui sont juste décontextualisés, c'est-à-dire on va isoler la difficulté sur un plateau, par exemple un verset, et ça n'a aucun sens. Verser des pois chiches d'un petit pot à un autre petit pot, ça n'a aucun sens, sinon celui du développement de l'enfant. En même temps, ça n'est pas complètement déconnecté de la réalité, dans le sens où, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos tout-petits font plein de choses qui n'ont aucun sens, concret, productif, au service de notre société. Un enfant qui découvre une bouteille sur la plage et qui va mettre plein de petits galets dans la bouteille, ça n'a aucune utilité fonctionnelle dans le réel des besoins sociaux ou des besoins humains. Et pourtant, il le fait. Et il le fait avec assiduité, il le fait avec passion, il le fait avec concentration. Et en fait, c'est exactement ça que Maria Montessori a recherché, c'est cette qualité de concentration, ce qu'on appellerait aujourd'hui le flow, hein, qui est une notion qui est à nouveau pas mal explorée en neurosciences. On essaye de comprendre quelle est cette qualité d'attention qui nous consacre totalement à une activité à un moment M. Et qu'est-ce que ça produit dans le cerveau en termes d'acquisition? Et c'est là que Maria Montessori a une intuition immense, c'est que elle s'est dit, et là il fallait beaucoup beaucoup à la fois d'humilité et de respect pour l'enfant et la nature, pour pouvoir dire à partir du moment où l'enfant se concentre sur une activité, qu'il le fait naturellement. Alors, cette activité est bonne pour lui et doit construire des compétences dans son cerveau. À l'époque, évidemment, elle n'avait aucun moyen de vérifier ça d'une manière scientifique, telle qu'on l'entend aujourd'hui, avec l'imagerie médicale, avec les capteurs cérébraux et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour mesurer l'activité du cerveau. Elle n'avait pas ça, c'était juste intuitif. Mais tout ça est aujourd'hui validé, puisque l'engagement actif d'un enfant dans son activité et son attention, ce sont les deux premiers éléments, les deux premiers piliers de l'apprentissage, tels que les neurosciences, par exemple, de Stanislas Dehaene le précisent. Donc, on va être complètement raccord entre une pédagogie qui a plus d'un siècle et une recherche qui est plutôt récente et qui nous permet de valider ces hypothèses. Donc, un enfant concentré, un enfant attentif à ce qu'il est en train de faire, est un enfant qui est en train de construire des compétences, de construire des repères, construire de la connaissance, construire du sens à l'intérieur de lui. Et Maria Montessori ajoute, du coup, il est extrêmement important de ne pas le déranger quand ce flow arrive, quand l'enfant est dans cette attitude de flow, il est important de le laisser accomplir son activité par lui-même et jusqu'au bout, et de ne pas perturber cette connexion Donc ça aussi, c'est waouh, c'est vraiment, c'est extraordinaire parce que ça vient complètement renverser l'idée du maître et de l'élève, une manière de penser ultra majoritaire à cette époque. Et aujourd'hui encore, vous avez sans doute remarqué. Donc elle a inversé complètement ça. Et c'est pas pour rien que un réalisateur dont le nom m'échappe là tout de suite, mais je pourrais vous le mettre en description, a titré son film L'enfant et le maître, EST, parce que c'est effectivement cela dont il s'agit. Au fond, c'est plus peut-être la nature, hein, c'est vraiment cette confiance en l'univers, cette confiance en l'intelligence universelle, en l'intelligence de la nature, et cette conviction profonde que cette intelligence sait exactement comment être et se développer au service du vivant, tout simplement. Et c'est là que ça rejoint pour moi la permaculture, parce qu'on va observer un jardin ou un terrain, un territoire en permaculture de la même manière. On va observer comment se comportent les plantes, quelles sont les plantes pionnières, les indicatrices, comment la cohabitation se passe, quels sont les éléments de flore, de faune, la qualité de la terre, sans essayer de changer tout ça. On n'essaye pas de changer, on n'essaye pas de dominer, on n'essaye pas de tirer à soi comme on a pu le faire en agriculture conventionnelle pendant des décennies. Tirer à soi, ça veut dire la seule chose qui m'intéresse, c'est que ce pommier produise des grosses pommes qui ont une valeur marchande importante et qui sont calibrées et avec une esthétique commerciale prioritaire que comment je vais faire pour en avoir beaucoup sur un territoire restreint. Donc ça, c'est la démarche conventionnelle et c'est un peu la démarche aussi qu'on a envers les enfants. Dans l'éducation conventionnelle, on va se demander comment on fait pour avoir des citoyens consommateurs, producteurs, adaptables aux besoins d'une politique ou aux besoins d'un État. En fait, hein, c'est ça qu'on va se demander. Et comment ils vont se mettre au service de la grosse machine économique mondiale aujourd'hui qui est toujours à l'œuvre, pas plus pour très longtemps vraisemblablement, mais en tout cas, c'est dans cette direction que nous avons tiré les enfants de ce monde et que nous continuons de les amener. Là, il s'agit plus de faire confiance que l'enfant qui se développe à son rythme, dans sa nature, en suivant ses élans, en suivant ce fameux guide intérieur dont parle Maria Montessori et qui est vraiment cette compétence innée, naturelle, intrinsèque dont l'enfant est porteur pour apprendre et se développer, qui n'est pas tellement remise en question chez le tout petit, le bébé. Voilà, on va pas se mêler de savoir comment il va arriver de la position du nouveau-né à celle du jeune enfant qui marche, qui court, qui grimpe, qui parle. On sait que tous les processus vont l'amener à ses compétences naturellement et on ne s'en soucie pas tellement plus que de lui offrir un environnement adapté où il va pouvoir, par mimétisme, trouver son chemin et apprendre ce dont il a besoin dans la famille dans laquelle il est né. Mais dès qu'on va aborder les compétences plus académiques, plus scolaires, alors là, on remet totalement en question les capacités intrinsèques de l'enfant et on va estimer que c'est un domaine de compétences, qui est un domaine professionnel, en tous les cas une dimension de la vie parentale qui s'appelle l'éducation ou l'instruction, qui est plus le domaine des enseignants. Et là, il faut des adultes compétents qui sont à même d'apporter à l'enfant ce dont il a besoin pour se construire. Donc derrière, il y a l'idée que si on ne lui apporte pas cet enseignement, il ne saura pas, il ne deviendra pas adapté à la société, adapté à l'autonomie dont il a besoin pour devenir un adulte accompli, responsable et qui va pouvoir subvenir à ses besoins. Donc Maria Montessori nous informe que nous pouvons faire confiance à l'enfant, bien au-delà de l'acquisition du tout petit, du langage, de la marche, etc. Mais nous pouvons aussi lui faire confiance pour acquérir par lui-même et sur ses propres forces vitales les autres compétences qui vont être nécessaires à atteindre sa vie d'adulte. Mais pour cela, il y a une condition. Et la condition, c'est qu'on mette autour de l'enfant un environnement adapté à ses besoins. C'est-à-dire que la richesse de ce qui entoure l'enfant, de son environnement, est fondamentale. Toute notre concentration d'éducateur Montessori, toute notre attention est focalisée sur la préparation d'une ambiance, la préparation d'un environnement qui va parler directement au guide intérieur de l'enfant et l'amener à pratiquer, à explorer, à analyser, à comprendre ce qui l'entoure. C'est la force de son enthousiasme et c'est sa passion de vivre qui va l'amener à explorer tout ça. Et ce que disait aussi Maria Montessori, c'est que lorsqu'on prend le contrôle de cet aspect de la vie de l'enfant, en estimant que nous sommes les enseignants, que nous sommes les guides et qu'il doit se plier et obéir au déroulement d'apprentissage que nous avons prévu pour lui, de manière à ce qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter, etc., comme nous le faisons dans l'enseignement classique, alors c'est contre-productif parce que ça va démobiliser l'enfant, ça va le déconnecter de ce guide intérieur qui est précieux, qui est fondamental dans la vie d'un être qui grandit et qui est l'écoute de soi, en fait, l'écoute de ses élans, l'écoute de ses intérêts, l'écoute de ses passions, l'écoute de ses curiosités. Et je dois témoigner que effectivement, en allant dans cette démarche, je me suis rendu compte que le potentiel de curiosité d'un enfant est immense, immense, pour peu que on n'arrive pas avec des injonctions, des obligations et des contraintes pour souiller en quelque sorte les matières et les sujets qui pourraient l'intéresser. Moi, j'ai entendu des enfants qui sont venus à la fin des enfants me disant « mais je déteste les livres, je déteste ça !» Et avec vraiment le ton de la pénibilité de la lecture dans l'attitude, l'enfant était vraiment mais écœuré, dégoûté, démobilisé. Et j'étais étonnée parce qu'à la ferme des enfants, les enfants étaient tout le temps amoureux des livres. Et c'était un de nos gros postes de dépense de la caisse commune, les livres. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour les livres. Alors, une bonne portion de bande dessinée, hein, je ne vous le cache pas, mais aussi des petits romans, des fictions, des livres documentaires, toutes sortes de choses qu'ils avaient pour passion en fait. Et on avait une médiathèque assez confortable avec des gros fauteuils. Il y avait tout le temps des enfants, des adolescents en train de lire. Et quand je recevais un jeune qui avait 7, 8, 9 ans et qui me dit « je déteste », je ne pouvais pas m'empêcher de penser « mais que s'est-il passé à cet endroit-là » Pour que c'est comme si un enfant disait oh, je déteste ma langue maternelle, j'ai horreur de ça, j'ai pas envie de parler la langue de mes parents. Je n'ai jamais entendu un enfant dire ça et je pense que ça n'existe pas ou que dans certains contextes. Ce que j'ai vu en revanche, c'est que des enfants par exemple qui sont en France et qui ont des parents allemands, ils vont préférer parler français et ils vont demander à leurs parents de leur parler français quand ils sont avec les copains, comme pour préserver quelque chose de l'appartenance avec le pays dans lequel ils sont. Donc ça peut arriver. Mais après, vouer vraiment une sorte de rejet pour ce qui est ces apprentissages fondamentaux qui se sont faits spontanément, ça, je l'ai rarement observé. Donc, il y a quelque chose qui à interférer effectivement entre l'enfant et l'apprentissage lorsque celui-ci est devenu presque son ennemi. Tout ça pour dire que, oui, une des hypothèses de Maria Montessori, c'est que l'attitude de l'adulte, donc une attitude autoritaire par rapport à l'apprentissage, hein, à partir de 6 ans et maintenant à partir de 3 ans, ben, il y a des obligations scolaires et l'enfant doit y répondre, et bien ça démobilise l'enfant, ça le déconnecte de ces apprentissages naturels plutôt que de le relier avec ce qui est vivant chez lui. Donc dans un espace Montessori, l'adulte va être très en retrait. Il va être presque en filigrane dans l'ambiance. C'est sûr que c'est lui qui va installer tout le matériel nécessaire, beaucoup, beaucoup observer les enfants, pour, de manière aussi à pouvoir apporter des compléments d'activité en observant que ben, tel enfant est passionné par les dinosaures et puis que tel autre, il est en pleine... Il a besoin, par exemple, de lancer. Il y a des enfants, ils ont besoin de lancer. Donc, ils vont le faire de manière peut-être inapproprié à un moment donné avec du matériel qui n'est pas fait pour ça. Et l'éducateur, l'adulte, va prendre acte de cette observation, vraiment de ce besoin, et apporter une activité, peut-être à l'extérieur, dans le jardin, ou peu importe, pour que l'enfant qui a besoin de lancer puisse le faire. Il y a des enfants, ils ont besoin de modeler. Alors, ils vont le faire avec de la mie de pain ou autre chose. Et ça va être une observation qui va nous indiquer que ce serait peut-être intéressant d'avoir un petit plateau avec de l'argile ou quelque chose comme ça qui permette à l'enfant de modeler, etc., etc. Donc, tous les comportements de l'enfant sont des sujets d'étude pour l'éducateur ou l'éducatrice Montessori et d'amélioration, de bonification de l'environnement proposé. Dans cette pédagogie Montessori, il y a aussi toute une trame prévue qui est très conséquente de matériel didactique qui se transmet de génération en génération, qui est fabriqué par des ateliers, des entreprises et maintenant repris évidemment par la mondialisation parce qu'on peut trouver du matériel Montessori chinois en pagaille sur Internet par exemple. Alors attention, il n'a souvent pas la même qualité que le matériel d'origine qui est produit par des ateliers vraiment consacrés, hein, comme voilà, Ninus ou Gonzaga Reddy, et qui sont des ateliers qui vont produire des pièces de très très grande qualité. Alors c'est un matériel très coûteux, ça c'est aussi un reproche que l'on fait à la pédagogie Montessori, mais je peux encore témoigner qu'il y a du matériel que j'ai depuis 21 ans. C'est-à-dire que oui, on va mettre 300 euros dans un cube du trinôme, par exemple, donc une petite boîte avec des encastrements qui doivent former un cube, mais on va le garder toute la vie d'une école. Donc, ça fait réfléchir quand même, parce qu'il y a une gabegie de matériel et de ressources aussi qui est faite chaque année dans le milieu scolaire. C'est énorme, tous ces cahiers, ces livres en pagaille qui sont achetés et rachetés chaque année parce que chaque année l'édition change et que, ou peut-être pas chaque année, mais tous les 3-4 ans, je ne sais pas exactement. Et ça c'est un gaspillage de ressources absolu. Et toutes ces écritures qui sont mises dans des cahiers qui ne seront jamais ouverts et qui finiront à la déchetterie, eh bien, ce n'est pas la démarche de Montessori puisque le matériel est principalement une ressource qui va pouvoir être utilisée par plusieurs générations d'enfants et qui va rester dans la maison des enfants. C'est un peu comme dans une vraie maison, eh bien, vous ne changez pas tous les ans votre vaisselle, enfin normalement, oui. Il y a des gens qui le font, hélas, mais lorsqu'on est dans la norme économique et qu'on a une attitude en tout cas assez respectueuse de l'environnement, on va garder son frigo, sa gazinière, son matelas et son canapé le plus longtemps possible, de manière à pouvoir les utiliser d'une manière qui est juste et qui est optimisée. Et dans une classe Montessori, c'est la même chose. Tout le matériel qui est présent, eh bien, on va en prendre grand soin déjà. Donc ça, c'est aussi une des surprises de cette pédagogie, c'est que même les tout-petits, de 3 à 6 ans, vont par mimétisme être inspirés pour prendre soin du matériel. Donc il est hors de question que ça parte dans tous les sens, que ça soit jeté par terre, etc. Si ça l'est occasionnellement, bien, l'adulte est là pour montrer, expliquer, voire comment dire, accompagner l'enfant dans une attitude plus juste. Et comme toute l'ambiance de la maison des enfants fonctionne sur le même principe, à savoir je vais chercher le petit plateau, je travaille avec, je le ramène dans l'étagère. Les enfants savent par imprégnation et parce que ça parle profondément à leur intérieur, ça les met en sécurité d'être dans un contexte où les gestes que l'on fait sont conscients. On est conscient de ses gestes, on est conscient de son attitude, on est conscient de ce que l'on fait. Mais comment dire, en quoi ça met l'enfant en sécurité? Mais en fait, c'est exactement pareil que les gestes dont il a été bénéficiaire quand il était un bébé. C'est-à-dire qu'un bébé, on ne le prend pas n'importe comment, on ne le balance pas sur le lit. Voilà, on a des gestes précis, on a des gestes pour ne pas le heurter. On sait qu'un bébé, c'est délicat, c'est fragile. Et en principe, les parents qui s'occupent du bébé font très attention à lui. Donc c'est une compétence naturelle de faire très attention au vivant. Si vous avez des fleurs, eh bien vous savez bien que le moindre coup de vent ou un geste maladroit, et hop, là, les fleurs vont se casser, tomber, faner. Des petits plants de salade, si vous les piétinez ou si vous arrivez brutalement, c'est terminé. Donc, dans notre rapport quotidien au vivant, cette délicatesse est un principe ordinaire, en fait. Et donc, on va retrouver cette délicatesse, ce geste juste, ce geste adapté dans l'ambiance Montessori. Ça va être montré par l'adulte, parce que l'adulte fait des présentations, donc il montre l'usage du matériel, mais ça parle au cœur de l'enfant, parce qu'il est porteur en lui de ce caregiving. Vous savez que je suis très adepte de cette notion de caregiving qui me parle énormément. Et donc, il va le reproduire naturellement. Parfois, c'est une grande surprise pour des enseignants qui ont été dans des classes bruyantes où tout était cassé en permanence, où les enfants utilisent le matériel pour le jeter à l'autre bout de la pièce ou se taper dessus ou je ne sais quoi. De voir que, oui, des tout petits, même en nombre, 25, 30 dans un environnement, vont être capables de prendre soin, y compris de petits objets en porcelaine, de petits objets en verre, de petits objets qui sont pointus ou tranchants, sans qu'il y ait de dommages, ni de matériel, ni humain. Moi, j'étais fascinée par ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, et en même temps tellement fluide, tellement évident. Alors, est-ce que c'est du conditionnement de l'enfant? Est-ce que c'est une incitation à une adaptation qui est contraire peut-être à d'autres énergies qui seraient des énergies de défoulement, des énergies un peu plus où il y a une animalité. Voilà, vous ne pouvez pas demander à une bande de petits chiens, par exemple, de faire attention à une... à un environnement Montessori. Évidemment, il dévasterait tout. Et d'ailleurs, il y a un âge aussi pour avoir accès. Les petits, voilà, on teste, hein, on les met dans l'environnement Montessori avec toutes les étagères à leur disposition. Et puis, si les choses sont bouleversées, renversées, cassées, bah, c'est que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour cet enfant de venir dans cet environnement. Il a besoin d'un environnement où les objets, comme un environnement Montessori 0-3 ans, ou Amy Pickler, ou l'oxy, voilà, des environnements où il n'y a aucun risque, ni pour l'enfant, ni pour le matériel, parce que tout est adapté. Voilà, mais il y a cet âge, vers 3 ans, où l'enfant commence à maîtriser ses intentions, maîtriser son corps de mieux en mieux, maîtriser sa motricité, et là, lui donner à vivre des expériences très fines, qui demandent de la dextérité, qui demandent de l'attention. C'est complètement adapté, non seulement c'est adapté, mais ça vient nourrir sa constitution, ça vient nourrir sa construction et son développement intérieur. Comme une sorte de méditation profonde, mais qui est apprenante, hein, qui va permettre au cerveau d'ouvrir le cerveau dans toutes ses disponibilités, dans toutes ses capacités. Voilà, pour ne pas être trop longue, je vais arrêter ce premier épisode là, et peut-être vous parler à nouveau de cette pédagogie Montessori dans un autre épisode où je viendrai petit à petit à vous témoigner de mon expérience avec des plus grands, des 6-12 ans, et peut-être même voir ensemble ce que l'on peut tirer de ces enseignements de Montessori pour les adolescents. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, ça me passionne. Peut-être aussi, j'essaierai d'être un peu plus critique une prochaine fois et moins passionnée pour aussi amener un regard un peu plus nuancé sur cette pratique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt dans un nouveau podcast. Au revoir.